Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Rav Eli Lemel, je vais vous proposer à vous et aux deux autres rabbanim qui font notre émission une forme de pause dans notre réflexion, comme on a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. On l'a fait pendant le corona, on l'a fait pendant le mois d'août. Et là, je voudrais vous inviter à une réflexion et surtout en fait à nous donner un enseignement. Parce que c'est vous qui faites cette émission. Rav Eli Lemel, je crois qu'on a... On vit tous, j'ai failli commencer ma phrase au passé composé, mais on vit tous, au présent, une période de très grande incertitude, au point qu'on est chacun, dans nos vies personnelles, frappé de cette incertitude dans laquelle on vit, cette incertitude qui nous encourt. On a vécu le corona, on pensait vraiment qu'on avait quelque part vécu le pire. On a été enfermé chez nous, il a fallu beaucoup prier et beaucoup espérer et même faire des choses pour sauver nos parents, par exemple. Et Baruch HaShem, beaucoup d'entre nous ont pu sauver leurs parents. Et on a cru que, voilà, on est sorti de ça, on va pouvoir faire quelque chose, vivre, recommencer à vivre normalement. Et commence la guerre en Ukraine. Commence la guerre en Ukraine, là encore. On se dit, bon, les dégâts peuvent être limités, finalement c'est là-bas, c'est pas ici. Mais on nous dit un jour, vous savez qu'on risque de vous couper l'électricité cet hiver. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui n'ont plus d'eau. Carburant. Sans carburant, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas de travail. Et vraiment, au bout d'un moment, on se dit quelle est la prochaine étape, et surtout déjà, comment moi je dois le vivre. Alors, je voulais vous inviter, Rav Eli Lemel, et ensuite on entendra Rav Guir, Rav Mordechai Biton, à nous dire en fait que nous dit la Torah sur l'incertitude, sur comment, quel est l'enseignement des Rabbanim, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous, qu'est-ce que peut-être la Torah veut qu'on apprenne, c'est peut-être l'un des buts de ces situations, mais comment est-ce que vous pouvez nous éclairer dans cette situation qui, vous savez qu'en plus, parce que j'ai pas voulu faire trop long, j'ai un peu l'habitude de présenter des émissions, je suis Bernard, calme-toi, parce qu'après je peux vous parler du fait que cet été on aura peut-être 50 degrés à Paris. Hein. Donc au bout d'un moment, on a vraiment l'impression que il faut qu'on ait des repères, et c'est vous les rabbanim, et c'est cette émission qui est là pour ça, pour qu'on ait des clés pour pouvoir vivre ce genre de situation. Donc voilà à quoi je vous invite, Rav Eli Lemel, et très concrètement, qu'est-ce que vous inspire ce que je viens de vous dire ?
Bon, alors vous avez décrit une situation. Cette situation-là, c'est la situation que tout le monde a pu découvrir au fur et à mesure des années qui viennent de passer, c'est vrai. La question, elle est la suivante. Une situation, elle est là pourquoi ? Évidemment, certains se contentent d'être dans une gestion, et puis d'autres essayent d'être dans une réflexion. Alors, les deux sont importants. Vous savez, c'est cette fameuse histoire dans laquelle on dit qu'il va y avoir un nouveau déluge, alors tout le monde se réunit, et puis le rabbin dit « bon, c'est vrai, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Mais en attendant, il faut aussi quand même apprendre à nager. Alors, c'est une boutade, bien sûr, mais souvent les gens sont là en train d'essayer de trouver toutes sortes de raisons, de causes, etc., et oublie qu'au fond, il y a aussi des choses ultra concrètes à mettre en place. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, lorsqu'on est confronté à une situation de ce type, qui génère de l'inquiétude, quelque part, c'est un petit peu comme le rapport à la maladie. Pas nécessairement une maladie dramatique, grave, non, maladie. Une maladie qui n'est pas juste un refroidissement. Il y a une discussion très intéressante entre Narmanide, le Ramban, et le Rambam Maïmonide, sur la manière dont on doit penser le rapport, donc, ce que j'appellerais la maladie, c'est-à-dire l'événement inattendu, l'événement un peu anxiogène. Comment est-ce qu'on doit le penser? Le Ramban a un long développement là-dessus, et j'ai envie juste de le résumer à travers une des phrases qu'il utilise, « Ma le refait bebet yoré Hachem ». Qu'est-ce que va faire le médecin dans la maison de quelqu'un qui véritablement craint l'internel? Traduction, si tu penses, et c'est comme ça que c'est la réalité, que tout de la source provient du créateur de l'univers, alors travaille à la source, c'est-à-dire interroge-toi, repens-toi, change, afin que les choses bougent. Le Rambam ne remet pas en cause cette notion, mais au fond, nous renvoie au fait qu'à notre niveau, nous n'avons pas toujours le standing spirituel nécessaire pour pouvoir dire ce genre de phrases. En tout cas, on les dit, mais elles ne sont pas véritablement intégrées. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous dit qu'il va falloir agir de manière concrète, aller voir un médecin et faire d'autres choses. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire, oui, il y a lieu de réfléchir, il y a lieu de s'interroger, mais il y a lieu aussi de se mettre dans une démarche d'action concrète, parce que si quelqu'un, vous savez, dit « bon, mais de toute façon, tout ça c'est Dieu », c'est facile de le dire, mais souvent c'est parce que les personnes n'ont pas envie d'agir. La notion d'inquiétude, elle est souvent très présente, et nos maîtres disent qu'elle est l'expression souvent d'un manque de émouna, d'un manque de foi. Et c'est là où, en effet, il y a peut-être un vrai travail à mettre en place sur comment raffermir cette notion de émouna, cette notion de foi et de confiance dans le Créateur. Ce n'est pas des choses si simples. Vous savez, des maîtres, et ce, quelle que soit leur époque, ont beaucoup écrit sur comment on construit, on développe, on raffermit, on renforce la émouna. C'est une vraie démarche, et cette démarche-là, eh bien, évidemment, il faut l'avoir. Sur le reste, vous savez, il y a des personnes qui sont capables, et je mets le mot entre guillemets, de vous expliquer que s'il y a ci, ça veut dire que ça, et donc s'il se passe ça, c'est que c'est la raison et la suivante et tout. Moi, je n'ai pas vu ça chez mes maîtres. Ils se sont toujours bien gardés de vouloir faire des relations de cause à effet et de dire que si telle chose existe, alors c'est sans doute parce qu'il y a ceci, ceci et cela. Au fond, je n'ai pas eu des maîtres qui se prenaient pour Dieu et qui pouvaient vous dire avec certitude quels étaient les plans, les desseins et la raison profonde pour lesquels tel et tel événement agissait dans l'univers, agissait dans le monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on voit ces périodes dans lesquelles on est dans des doutes, alors il y a peut-être lieu aussi de remercier. Vous allez dire de remercier de quoi? Eh bien déjà de tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, oui, en effet, il y a ce sceptre de non, je ne sais même plus d'ailleurs comment est-ce qu'on dit, cette peur, voilà, hein, je vais utiliser le bon mot, de ces coupures d'électricité. C'est génial, mais quand on vous dit qu'on va couper l'électricité, c'est qu'il y a de l'électricité, mais pendant un mois, elle ne sera pas là. Et donc, évidemment, on va peut-être apprécier quand dans le quotidien, c'est là. Vous savez, c'était comme dans la pénurie d'essence. Quand je me suis retrouvé sur mon scooter en train d'attendre trois quarts d'heure pour pouvoir prendre quelques litres d'essence, alors je me suis dit, tiens, eh bien, ce que nos parents ont vécu, de faire la queue, mais là-bas, pour manger du pain pendant la dernière guerre, on est en train de le vivre un petit peu. La seule différence, c'est que pour nous, c'est juste prendre de l'essence. Il n'y a aucune forme d'angoisse par ailleurs. Et on sait très bien que bon, ça va. La grève, elle va durer, allez, 15 jours maximum. Après, tout ira bien. Et donc, réapprécions les choses. Il ne faut pas que l'on soit dans la perte ou même qu'il soit ponctuel des choses pour pouvoir le réapprécier. Alors oui, apprécier, c'est quoi? Une société dans laquelle il n'y a pas de guerre, une société dans laquelle tout fonctionne normalement, et le voir peut-être aussi à notre niveau, dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, moi, en tout cas, tel que vous m'avez posé la question un petit peu, la manière dont j'ai l'impression qu'on devrait peut-être essayer de penser ces situations, mais évidemment, sans oublier cet élément fondamental de savoir prier et de savoir que, comme tout provient d'Akadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou pas, eh bien, il attend aussi qu'on se tourne vers lui, qu'on fasse la tefila pour qu'on lui montre bien notre capacité à se rappeler que on peut agir, mais de manière ultime, tout dépend de lui, et c'est peut-être aussi ça la leçon que nous devons prendre.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. On va réfléchir et agir, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, dans le sens de ce que vous venez de nous dire. Je vous remercie et Shavuot Tov.
Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem à présent avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, shalom, shalom aleichem, bonsoir.
Alors Rav Mordechai, on va vous poser à vous aussi cette même question. On a tous le sentiment que ou que les choses s'écroulent, ou que... Peut-être d'ailleurs vous allez me dire non, moi je n'ai pas l'impression que ça s'écroule, mais ce sentiment d'incertitude dans un monde où plus rien n'est certain. Bon, on vient d'en parler avec Rav Eli Lemel, on a décidé d'en faire notre réflexion commune à nous tous avec nos trois rabbanim ce soir. En Israël, en plus, c'est pareil. En plus de ça, il faut ajouter les vagues d'attentats. Ça commence, ça repart. Mais là, on a quand même l'impression que la planète découvre que rien n'est sûr, que tout est incertain. Et à la limite, on va se demander dans 5 minutes, bon, on a fini la guerre en Ukraine, on a des coupures d'électricité chez nous, chose impensable. Mais c'est quoi la suite ? On va pas laisser ça comme ça. Il va y avoir une nouvelle invention qui sera, je sais pas quoi, des chaleurs caniculaires qui feront qu'on pourra plus vivre dans nos villes. Qu'est-ce que dit la Torah à ce sujet, et qu'est-ce que vous, Rav, vous en tirez comme enseignement de vos lectures et de votre érudition?
En fait, la question que vous posez, c'est la question de l'incertitude. On vit là maintenant dans une atmosphère d'incertitude. Alors, il faut savoir que le juif, il a trois clés pour gérer l'incertitude. Le premier, d'abord, c'est ce qu'il dit le matin au réveil, avant de poser un pied par terre, avant de se laver les mains. Il dit « Modé Ani ». Il commence à dire à Kadosh Baruch Hu « Modé Ani le Fanecha »,« Reconnaissant je suis ». Et dans ce texte qui est très court, il dit « Je suis reconnaissant à Dieu que tu m'aies rendu mon âme », c'est-à-dire que tu m'aies rendu la vie. Comme si, en quelque sorte, ça n'allait pas de soi. C'est-à-dire que, finalement, quand le juif se lève le matin, il dit à Dieu, c'est pas évident que tu me rendes mon âme. D'un autre côté, nos sages nous disent que David Hameler écrit dans Tehilim qu'on va tous vivre en 70 ans, voire 80 ans, et peut-être plus encore. Donc, d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle des chazakot, il y a des présomptions. En fait, on va vivre 70 ans. Donc, pourquoi tous les matins, on doit remercier Dieu de cette âme qu'il nous rend ? Parce qu'on va vivre 70 ans. Et la réponse est la suivante. C'est que la vie est ce qu'on appelle en hébreu une chazaka. Une chazaka, c'est qu'il y a une présomption. Il y a une présomption qu'on est vivant, une présomption qu'on restera vivant. Mais effectivement, Hachem peut décider à n'importe quel moment de mettre fin à notre expérience. C'est la raison pour laquelle on nous dit « Fais teshuva chaque jour » parce que, en fait, tu ne peux pas attendre la veille de ta mort pour faire teshuva. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc tu dois faire teshuva tous les jours. Ça, c'est le premier point. Et c'est la première chose qu'il faut poser. C'est une première clé pour comprendre comment finalement le juif doit gérer son existence. C'est dans le temps présent. Le juif, il gère son existence dans le temps présent. Si je me projette dans le futur, je ne peux pas être dans le présent. Je dois être toujours dans le temps présent. Qu'est-ce qu'on me propose là maintenant ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Alexandre Macédoine, grand conquérant, est parti demander aux sages du sud d'Eretz Israël, manière de dire qu'il a été voir des gens très sages, et il leur a demandé finalement qu'est-ce qu'un homme doit faire pour vivre. Ils lui ont dit « Arotez les chiotes et amout ». Celui qui veut vivre, il faut qu'il meure. Quelle est l'explication ? L'explication, elle est de dire que la vie, c'est la capacité d'éteindre certaines choses qui nous apparaissent comme très satisfaisantes, mais qui, en fait, sont complètement angoissantes et destructrices. Précisément, une des choses qui est la plus destructrice pour un individu, c'est l'angoisse. S'angoisser pour le futur, s'angoisser de ce qu'on va devenir, s'angoisser de ce qu'il va y avoir. Mais qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qui va se passer à la fin ? À quelle sauce on va être mangé ? Quel est le prochain coup ? Vous voyez, ce stress-là, c'est un stress qui tue l'individu. À Rotzelichyot, celui qui veut vivre, Yamout, il doit mourir. C'est-à-dire quoi il doit mourir ? Il doit éteindre un certain nombre de choses en lui qui sont des choses complètement destructrices. Et effectivement, l'angoisse répétée de qu'est-ce qu'on va devenir est une angoisse qui est complètement destructrice. L'autre point, c'est le point strictement juif, c'est qu'on a vécu, nous les juifs, des effondrements d'empires, des guerres, des persécutions, Nos générations sont des générations, Baruch HaShem, Dieu merci, qui ont été habituées. On a vécu des guerres, on a vécu des transbahutements, on a vécu des départs d'Europe vers la France, de l'Afrique du Nord vers la France vers Israël. On a connu ce genre de choses. On n'a pas connu ce qu'ont connu nos générations précédentes. Donc on vit dans une relative quiétude. Et donc on a perdu cette habitude, malheureusement, dans laquelle ont vécu les Juifs tout au long des 20 derniers siècles, d'être transbahutés et d'être dans l'incertitude permanente du prochain coup, de la prochaine persécution, etc. Il y avait des îlots de tranquillité, mais sinon, on vivait dans une certaine incertitude. Alors, il faut dire ici, c'est une réponse plus spécifiquement, historiquement juive, on va dire, qui est que le monde d'incertitude dans lequel on vit aujourd'hui est le monde dans lequel ont vécu nos ancêtres. Et nos ancêtres n'ont pas vécu dans un monde... Nos ancêtres, c'est des gens qui ont vécu il y a 200, 300, 400, 500, 1000 ans. N'ont pas vécu dans un monde qui était un monde sûr et certain. De ce point de vue-là, on est dans une parenthèse historique, et on est en fait en train de retourner à finalement ce qui a toujours eu cours. Donc à partir de là, le juif, il a ses armes, qui sont la tfila, qui sont la prière, qui sont le bitachon, la confiance en Hachem, la emouna, la foi que finalement Hachem mène le monde, et qu'il le mène de la meilleure manière qui soit. Et à partir de là, il a aussi... Une autre valeur. Pour nos sages, on vit dans la période pré-messianique. Ça n'a rien à voir avec les guerres qu'on vit aujourd'hui, mais on vit dans l'époque pré-messianique. Dans l'époque pré-messianique, c'est une époque qui est caractérisée par des turbulences identitaires, des turbulences identitaires individuelles et collectives. Donc, nos sages disent la meilleure manière de bien vivre ces périodes, c'est d'être osek b'Torah b'gvulut chassadim, d'étudier la Torah, c'est-à-dire d'être connecté sur la pensée divine, et de découvrir finalement le projet divin dans notre quotidien et dans notre vie, et en même temps, gomel chesed, de faire du chesed, c'est-à-dire de faire du bien autour de soi, d'être occupé à procurer du bien. Alors, ça peut être du bien sur le plan psychologique, en donnant de l'énergie, en écoutant des gens, ça peut être un bien physique, parce qu'on aide des gens matériellement, on leur donne de l'argent, on les soutient, mais ces deux activités, c'est des activités qui ancrent l'individu dans le présent, et dans le chesed, et dans la bonté, et qui l'empêchent de sombrer dans la peur et dans la folie. Et ça, je crois que c'est la pire des choses aujourd'hui dans cette période, sombrer dans la peur, dans la dépression, s'inquiéter. Non, il faut vivre avec beaucoup de force, beaucoup d'optimisme, et avec un grand sens juif, je dirais, de l'optimisme et un sens juif historique. On a vécu déjà des périodes de ce genre, et on a résisté, on est toujours là. Voilà, moi, je crois que c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut aller.
Mais par ailleurs, on a vécu ça pendant le corona. On croyait avoir tout vécu pendant le corona. Mais on a vécu ça, hein. Mais quand on a dit, mais la génération précédente que vous venez d'évoquer, eux, même quand ils mettaient au monde un enfant, ils ne savaient pas s'il allait vivre. Pour nous, c'est une évidence. Fort heureusement d'ailleurs que c'est la catastrophe. On a redécouvert la fragilité de la vie à ce moment.
Absolument. Mais alors, il faut savoir pour le corona que nombre de gdolim, de grands rabbins avec lesquels on a parlé ici en Israël, nous ont dit, mais ça n'est qu'un préambule. Pour eux, c'était tout à fait clair qu'ici, il y avait un message qui est envoyé par Hachem qui a d'un seul coup stoppé l'humanité dans sa course et qui a dit à l'humanité tout entière, stop, c'est moi qui dirige le monde, c'est moi qui décide de ce qui se fait dans ce monde. Et donc, il y a une espèce de message très très fort qui a été envoyé. Quand il y a un message très fort, on a vu dans l'histoire de l'humanité, avant le déluge de Noir, avant la tour de Babel, avant l'exil égyptien, avant la destruction du Beth Amikdash, comme le disait le Chafetz Chaim, il ne faut pas être mystico-dingo et un peu taré pour parler comme ça. Il suffit d'écouter le Chafetz Chaim, un homme sage, sain et intelligent, qui nous disait « Dieu parle par l'entremise des épreuves qu'il amène dans le monde ». Donc il nous a parlé, Hachem, au moment du corona. Il nous a dit quelque chose. Il nous a dit que de nous ressaisir, d'arrêter de détruire la planète, d'arrêter de nous détruire, d'arrêter à titre individuel de nous détruire, d'arrêter de nous éloigner de lui. Il nous a dit quelque chose. Il nous a parlé. Il n'a pas rien dit. Donc... pour tous les rabbanim, c'était clair qu'on allait vers des désordres accrus. On sait bien en plus historiquement qu'après les épidémies, on rentre dans les périodes de crise économique, et après les crises économiques, on rentre dans des crises militaires. Donc il y a ici un schéma qui est un schéma connu. Pour le briser, il aurait fallu une tchouva collective de l'humanité. Mais comme ça n'a pas vraiment eu lieu, alors il faut imaginer qu'on reste sur un schéma historique connu. Alors à nous, dans cette configuration-là, de nous renforcer dans notre émouna, dans notre foi, dans notre bitachon, dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah, et surtout aussi dans le chesed. Parce que c'est ce qui fait la différence dans ces périodes. Le chesed, la bonté, l'entraide, d'être avec l'autre.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir. Shavua Tov.
Et je vous pose à vous de nouveau la question pour cette émission un peu spéciale. Cette émission marque un petit peu une pause. Nous, on a l'habitude d'étudier la paracha ou les grandes fêtes de notre calendrier. Et je voudrais donc à vous aussi vous demander ce que dit la Torah sur ces périodes d'incertitude. Et on a tous l'impression d'en traverser une très importante. Après avoir passé le Covid, on croyait que c'était le probablement, enfin au moins on était tranquille là pour quelques années, au moins ça. J'allais dire, on pensait que c'était le pire. Et non, y a la guerre qui a été déclenchée en Ukraine. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif qu'on a fait en début d'émission, puisque vous le connaissez très très bien. Mais les gens ont vraiment l'impression qu'il y a très très peu de choses qui sont sûres autour d'eux, à part peut-être leur famille. Et on a peur aussi, mais on a failli perdre... on a des fois même perdu des membres de notre famille pendant le Covid. Mais à part notre famille, notre Torah, même pas le travail. Qu'est-ce que disent nos Chachamim ? Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner sur ces périodes d'incertitude, sur la période que nous traversons, et à la fois comment on l'a traversée et quel enseignement en tirer ?
Très bien. Alors, donc en fait, il faut d'abord bien comprendre qu'une période dans laquelle nous sommes, une période d'incertitude, pour moi, elle a commencé en 2001. Dès le 11 septembre, il y a eu quelque chose qui a, je pense, ébranlé le monde et qui n'a pas cessé de l'ébranler. C'est aussi le terrorisme, etc. Donc pour moi, c'est une période d'incertitude qui a commencé il y a longtemps, mais effectivement qui s'est accentuée avec la Covid et la guerre en Ukraine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la fin des temps, c'est une des caractéristiques de la fin des temps, c'est une sorte de fragilité, d'incertitude, qui doit nous donner des forces. Bizarrement, au lieu de perdre des forces, nous donner plus de forces. Pourquoi ? Alors, je vais vous l'expliquer sous la forme d'une parabole. Si, par exemple, vous avez, pas vous, mais quelqu'un, et un petit rhume, un petit refroidissement, il va se plaindre quelque temps. J'ai le rhume, j'ai la voix prise. Mais si cette même personne rencontre un médecin et lui dit « tu as une maladie très très grave », il ne pensera plus du tout à son rhume et à sa voix, etc. Il parlera évidemment de cette maladie dont il faudra qu'il guérisse. En fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme ait toujours peur. L'homme a été créé comme étant un être qui a peur. On a toujours des soucis, des peurs de quelque chose. Mais Hachem nous dit « écoute, ce que dans la vie tu dois avoir, c'est la peur la plus importante que tu vas avoir, c'est celle de ne pas être à la hauteur de ce que Hachem attend de toi. Voilà, la vraie peur que tu dois avoir. Et cette peur-là, en fait, elle doit te remplir tellement qu'elle doit te donner des forces. Ce n'est pas une peur qui te tétanise, mais une peur qui te donne énormément de force. Je me rappellerai toujours la description du Rav Volve lorsqu'il imaginait le Ramban, Nachmanide, face à l'inquisition espagnole, en train de défendre le judaïsme face au christianisme, et avec la force et le courage qu'il a eu à ce moment-là, en disant « mais comment, d'où il puise cette force ?» Eh bien justement, parce que le Ramban, Nachmanide, il avait peur d'Hachem, et cette peur d'Hachem remplissait tout son être et évacuait les autres peurs qui étaient, par rapport à cela, secondaires. Moi, je pense qu'une période d'incertitude, une période dans laquelle on doit absolument se renforcer dans le crainte d'Hachem, et cette crainte d'Hachem nous donnait justement des forces pour justement évacuer le reste. On ne peut pas dire à quelqu'un n'aie pas peur. N'aie pas peur, ça n'existe pas. On a tous peur de quelque chose. C'est quelque part, il demande dans notre ADN. Nous avons toujours peur de quelque chose. Et nous avons raison d'avoir peur. C'est vrai que dans la vie, il y a toujours des incertitudes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est avoir peur de la chose principale. Mais si on a peur d'Hachem, on a moins peur du reste. Je voudrais juste vous donner un exemple très intéressant. Lorsque Paro, on va voir dans la paracha bientôt, la paracha qui arrive, Vaera et Bo. Vaera, il y a sept makotes, sept plaies. Dans Bo, il n'y en a que trois. La première, c'est la sauterelle, les sauterelles. La deuxième, c'est Rocher, l'obscurité. Et la troisième, c'est Makadorot, la plaie qui a décimé les premiers-nés. Et donc, dans ça, je vous dis, pourquoi avoir partagé en deux, sept et trois ? Eh bien, tout simplement parce que les trois correspondent Bo El Paro. Il s'agit de toucher Paro. Pourquoi Paro ? Comme tout être humain, il s'appuie sur trois choses. On a trois choses sur lesquelles on a une certaine confiance. On a d'abord confiance au fait que nous avons de l'argent. Nous avons des moyens financiers. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il envoie les sauterelles qui vont décimer l'Égypte. Dans quel sens ? Elles vont manger toute la production agricole de l'Égypte, donc l'Égypte est ruinée. À l'époque, l'économie, c'était l'agriculture. Donc elle est ruinée. Ensuite, elle va attaquer, on va attaquer Rocher, l'obscurité, on ne peut même plus bouger. L'homme, quelque part, se dit, bon, mais j'ai des forces, je suis fort, j'ai de la santé, j'ai les capacités d'agir, de faire. Alors, l'obscurité va le tétaniser, l'empêcher de se déplacer, et donc il va se rendre compte que même de son corps, il n'est pas maître, il n'est pas sûr de l'avoir à disponibilité. Est-ce qu'il aura la santé, est-ce qu'il aura la force ? Rocher a bloqué les Égyptiens, ne pouvait plus bouger, pour nous rappeler qu'en fait, Paro devait comprendre que Hachem décide de tout, et même de chaque mouvement que nous voulons faire à chaque instant. Et la troisième chose, c'est Makat Bechorot, c'est-à-dire les premiers-nés. L'homme se dit, bon, moi je n'ai pas tellement de moyens, je n'ai pas tellement de force, mais j'ai mes enfants. Mes enfants vont se battre pour moi, vont m'aider, me protéger, etc. Et là encore, là, les enfants sont frappés, et il perd le Makat Bechorot, c'est la plaie qui va toucher les premiers-nés. Les enfants. Donc on a ici trois éléments sur lesquels l'homme s'appuie. Sur sa force physique, sur ses enfants, sur son argent. Et Hachem, dans Parashat Bo, montre combien l'homme, évidemment, n'a rien. Il n'a rien, il ne possède rien. À chaque instant, il peut perdre l'un de ces trois choses, voire les trois, et il doit se dire ce que Hachem dit à Paro. Paro comprend que le maître du monde, c'est Hachem. Et y a la période la plus difficile, la plus compliquée, c'est lorsque les hommes pensent être sûrs d'eux-mêmes, ils n'ont aucun risque, ils n'écoutent pas, par exemple, les prophètes à l'époque du premier temple, ou à l'époque du second temple, ils n'écoutent pas les avertissements des sages, etc. Ils disent, mais non, on a le Beth Amikdash, non, on a de l'argent, non, on fait ceci, non, on fait cela. Quelque part, c'est une période propice pour que l'homme rejoigne véritablement cette peur véritable que nous avons tous besoin d'avoir, mais une peur qui ne tétanise pas, une peur qui donne des forces. Parce que lorsqu'on a peur d'Hachem, on évacue les autres peurs. Et on est beaucoup plus fort. Comme le Ramban devant les questions. On est fort parce qu'on a une confiance totale dans celui qui nous protège. Donc c'est une chose qui me semble assez particulière de cette période, où je sens les gens plus, on va dire, plus intéressés et attirés par le message de la Torah. C'est impressionnant de voir le nombre de cours et combien les gens sont assoiffés de Torah, parce qu'effectivement ils ont compris que toutes les autres valeurs sont remises en question à chaque instant, à tout moment. Et donc ça nous donne, Baruch HaShem, un peuple qui fait tshuva, qui avance, qui se remet en question et qui a sa véritable confiance en Hachem. D'ailleurs, les parachutes dans lesquels nous sommes, parachat Vayigash, Vayechi, etc., on parle de Yosef, de ses frères et de l'histoire de Yosef et de ses frères, montre comment Yosef, jeté en prison, vendu par ses frères, pourchassé par Madame Potiphar, reste le même Yosef, il ne bouge pas, il est fort, il est puissant parce qu'il a peur. Il a peur de Dieu et de personne d'autre. Il dit Elohim, il cite Elohim à tout moment devant Pharaon, devant tous les autres, et à ce moment-là, ça lui donne une grande force. Et il arrive grâce à cela à protéger ses frères, à protéger sa famille et à protéger le monde entier grâce à cette confiance, cette crainte de Dieu.
Il paraît qu'en Ukraine, ils vivent ça encore plus fort que nous, ce retour des gens vers les synagogues. Il y avait un Chaler Lubavitch sur place qui m'a raconté ici à l'antenne sur Radio Shalom, à Kherson. Il a dit, mais vous imaginez pas, quand on vit dans une insécurité comme celle-ci, on a des gens qui passent uniquement pour pouvoir demander un biscuit, pour pouvoir faire une bracha, alors que nous, on sait très bien qu'ils ne sont pas les plus religieux. Ils ont besoin de cette chaleur-là, ou peut-être même, on dit dans la Torah, ce rocher, on dit ce tsour, on le retrouve. Et c'est intéressant, il dit, en dehors de la guerre, on avait sa voiture, on voyageait, c'est exactement ce que vous dites, mais il paraît qu'ils le vivent en Ukraine encore plus fort.
Ah mais j'ai aucun doute, j'imagine, c'est un principe, la Neshama, elle est au fond de chaque juif, de chaque être humain évidemment, mais de chaque juif, puisqu'on parle de ça, eh bien lorsque le corps est très présent, eh bien on ne l'entend pas, et puis lorsque le corps s'efface, dans le sens où le corps est fragilisé, la Neshama prend tout son éclat et apparaît dans toute sa splendeur.
Rav Gueye, je vous remercie, Shavua Tov, et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir, Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire Shavua Tov.